Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur POC or GTFO, donc avec Ange Albertini. Bonjour Ange.
Bonjour.
Et pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulloa. Alors, je rappelle en préambule que nous avions réalisé déjà ensemble un épisode avec toi, Ange, sur les fichiers polyglottes. Et j'incite nos auditeurs fortement à réécouter, ouais, à découvrir cet épisode s'ils ne l'avaient pas écouté, car il était vraiment très très intéressant. Alors, Ange, justement, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ?
Ça, c'était inattendu. Moi, je suis analyste de virus. Je fais du reverse engineering depuis l'adolescence, mais je suis pas très brillant. Et sinon, j'aime beaucoup jouer avec les formats de fichiers, les documenter, les expliquer, les comprendre et faire des trucs bizarres avec aussi, si on me le demande, s'il y en a besoin.
Alors, POC or GTFO, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc déjà, POC or GTFO, c'est Proof of Concept or Get the Fuck Out. C'est l'expression que les hackers utilisent entre eux pour dire « prouve-le », donc donne-nous le fichier qui montre la vulnérabilité ou qui fait planter le logiciel ou quoi. Ou tais-toi, ou get the fuck out, donc casse-toi. Donc voilà, et souvent, hélas, il y a des interprétations que ce n'est pas Pictures of Cats ou ce n'est pas Persons of Colors. Donc voilà, POC or GTFO, c'est le cri de ralliement des hackers qui en ont marre du hype commercial et qui veulent effectivement qu'on montre, qu'on prouve ce qu'on annonce, quoi.
Alors en dehors d'un cri de ralliement, qu'est-ce que c'est aussi également ?
C'est une combien de points au Scrabble ? Donc POC or GTFO, c'est donc aussi le nom d'un fanzine gratuit disponible sur Internet auquel je participe depuis quasiment la fondation, donc depuis 2013.
Mais on peut le trouver où quand tu dis sur Internet ? Quel est le site officiel ? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de méthodes de distribution, mais je ne sais pas s'il y a un site officiel de distribution.
Alors justement, POC or GTFO, dans l'esprit peut-être hacker un peu trop poussé, il n'y a pas de site officiel, donc on invite tous nos lecteurs à fournir leur propre miroir. Mais sinon, c'est aussi lisible en ligne sans avoir besoin de télécharger. On verra ce que sont les conséquences de télécharger POC or GTFO plus tard. On peut le lire directement en ligne sur archive.org.
Et donc, vous êtes combien de personnes à travailler sur ce fanzine ?
Ben, on n'est qu'une poignée de personnes, avec chacun des rôles un peu particuliers, enfin je veux dire bien spécifiques. Par exemple, moi, la qualité de l'anglais, j'y touche pas du tout, mais on n'est qu'une demi-douzaine maximum, et de façon régulière, 3 ou 4, quoi.
Oui, parce qu'il y a une core team qui organise le magazine, mais par contre, il y a de nombreux contributeurs externes. Vous n'écrivez pas tous les articles vous-même ?
Non, surtout, oui, c'est ça le but. On n'écrit pas du tout les articles nous-mêmes. En général, on propose d'aider d'autres personnes externes à publier des articles. Ça nous donne une variété de contenu bien supérieure à ce que nous pourrions fournir. Et parfois, on écrit certains articles, mais d'ailleurs, récemment, c'est pas trop arrivé. Mais enfin, c'est surtout... On reçoit des articles extérieurs, depuis l'extérieur, et après, on contribue avec les auteurs pour améliorer les choses à tout point de vue.
D'accord. Alors justement, quels sont les domaines qui sont couverts ?
Ben, on a vraiment couvert plein de domaines qui ont été couverts. Il y a du cracking de l'Apple II, il y a du lockpicking, il y a de la SDR, il y a des exploits Windows 10 par Alex Ionescu ou James Forshaw. Il y a vraiment énormément de choses. Il y avait même du hacking d'ordinateurs serbes, enfin des trucs bien tordus. On n'a pas vraiment de limite. Le mot d'ordre, c'est il faut pas qu'on s'ennuie, il faut que l'article apporte quelque chose d'intéressant, même si l'article ne fait qu'une seule page, ça nous suffit, mais il faut que ce soit quelque chose d'intéressant. Il y a des articles du hack de Super Nintendo ou de Game Boy, il y a du mainframe, il y a vraiment de tout. L'important, c'est que ce soit distrayant, mais surtout intéressant techniquement. Et justement, avec un exemple réel, d'où le nom du magazine.
Alors, on a un petit peu parlé du contenu, et si on parlait maintenant du contenant ?
Alors déjà, PokerGTFO, c'est à l'ancienne, donc c'est publié sous format PDF et on essaye de bien mettre en page que ce soit agréable à lire et intéressant. Mais déjà, c'est disponible avant tout sous forme imprimée à une conférence, c'est-à-dire qu'on a une vraie deadline en dur. On dit d'avance qu'on va le diffuser à telle conférence et ensuite. Donc ça nous oblige vraiment à pousser les auteurs à finir l'article à temps parce que on peut pas retarder même d'une demi-journée, les imprimeurs n'aiment pas ça. Donc PokerGTFO, c'est tout d'abord disponible sous forme imprimée, c'est imprimé à une conférence donnée, donc on a une vraie deadline en dur, inamovible, et ensuite c'est disponible sous format électronique, donc sur les différents miroirs. À télécharger gratuitement et donc lisible aussi sur archive.org en général.
Mais le PDF est quand même a plus d'easter eggs que la version papier, non? Parce qu'il me semble que la version PDF à chaque fois est un challenge technique. À un moment, on n'avait pas fait un PDF qui pouvait aussi se lancer en tant que serveur web qui distribuait lui-même le contenu du PDF?
Ah si si, dans un but pur. Donc déjà, pardon. Donc effectivement, il y a beaucoup d'informations en plus dans la version électronique. Donc déjà, chaque numéro est un polyglotte PDF zip, ce qui fait que on peut ouvrir comme une archive zip le fichier PDF et on aura les sources et d'autres informations supplémentaires liées aux articles ou d'autres documents qui nous ont paru intéressants et qu'on a rajoutés au numéro. Mais en plus, chaque numéro est un polyglotte supplémentaire. Donc, par exemple, le numéro 11 était un serveur Ruby, donc le fichier pouvait être son propre serveur web et se diffuser donc lui-même. Le numéro 12 était une app Android, et donc le fichier lui-même pouvait se partager par NFC d'une machine à l'autre, d'un portable à l'autre. Donc c'est pas exactement un format standard. Un fichier standard.
Et à chaque fois comme ça, il y aura un fichier polyglotte. Donc,
Ben, effectivement, donc parfois ça n'a rien à voir avec les articles, et parfois c'est même lié à un des articles en particulier. Et donc chaque numéro est effectivement là aussi une proof of concept de manipulation de fichiers. Voilà.
Il me semble qu'il y a des dizaines d'easter eggs qui sont en fait répartis dans le fichier ou dans les articles même, par exemple dans les images, et que tous n'ont pas encore été trouvés. Enfin, en tout cas.
Effectivement, oui, pardon.
Non, mais en tout cas, c'est ce que tu semblais dire dans ta conférence au RMLL sur le sujet, dont les slides sont disponibles en ligne sur SpeakerDeck.
Effectivement, si on regarde l'intérieur du fichier, on verra peut-être certaines bizarreries et c'est peut-être pas par hasard. Et on en a mis parfois pas mal, voire un peu trop, et toutes n'ont pas été trouvées. Et comme en plus parfois on bosse relativement en indépendant au niveau de la team, il est possible que certains de notre coéquipier ne soient même pas au courant de cela. Donc je ne suis même pas sûr, et je pense que je ne suis pas au courant de tous les easter eggs cachés dans PokerGTFO.
Parce que la taille moyenne du PDF, enfin, il y a certains numéros qui font 50 ou 100 mégas. Pour un PDF, c'est un peu gros.
Alors, dans les premiers numéros, ce qu'on faisait, c'est qu'on rajoutait le numéro précédent dans le numéro suivant. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça allait faire plus de 100 mégas, ce qui était la limite d'upload sur GitHub. Donc, on a arrêté cette tradition, qui d'ailleurs était rigolote au début, mais était un peu casse-pied ensuite, parce que ça, même pour nous, ça faisait des fichiers monstrueux. Et ensuite, quand même, on essaye de réduire au maximum la taille, avec toutes les techniques. De normal, de réduction d'image, de qualité de PDF, etc. On est quand même. On fait des bêtises, on délire bien, mais on essaye aussi de penser. On pense aussi à nos utilisateurs, à nos lecteurs. Et donc la taille, effectivement, peut varier, mais en général, quand même, elle est justifiée. Même si, effectivement, ça fait au final un gros PDF. Un gros fichier polyglotte.
C'est quand même audacieux de lancer un magazine en 2013, enfin, par rapport à tous les vecteurs de communication qu'il peut y avoir aujourd'hui, ou par rapport même à la concurrence. Je pense à Frac ou Uninformed. Alors Uninformed aujourd'hui ne publie plus, mais Frac, il y a encore quelques numéros qui sortent. C'était quoi votre démarche en fait en lançant cette initiative? Qu'est-ce que vous apportez par rapport aux conférences, à Twitter, aux blogs, aux pages Facebook, à LinkedIn
Moi, on n'a pas vraiment de mot d'ordre, mais moi, tel que je le vois, c'est qu'on permet à des gens de... Certaines personnes ont fait des grands projets, des beaux projets, mais ces gens-là ne sont pas forcément capables de les expliquer de façon humaine ou lisible ou agréable pour les gens. Et c'est dommage que des choses comme ça soient perdues. Donc on est là déjà pour les motiver, enfin, ou leur donner des coups de pied au cul, ça dépend, et aussi pour les aider, si possible, par exemple, à nettoyer les images ou à suggérer une amélioration ou proposer de faire une illustration. Et très souvent, au début, les gens envoient un article et ils pensent qu'ils vont plus être dérangés. Mais une fois que les gens voient qu'on est très motivé de peut-être d'obtenir encore mieux que ce qu'eux-mêmes auraient fait, parfois ils se remettent les mains à la pâte et comme on dit, ça devient une synergie collaborative formidable. Et on a des gens qui tout d'un coup ont des nouvelles idées. Parfois on leur impose un peu, peut-être ils ont un script innommable de compilation et on leur dit tu pourrais pas nettoyer ça parce qu'on n'y arrive pas. On les force un peu à se bouger les fesses et après. Je pense que le résultat, il est meilleur pour tout le monde et on a un article qui est beaucoup mieux que ce qu'il avait fait tout seul. Nous, on n'est pas les auteurs, donc tant qu'à faire, on trouve le résultat que c'est bien. Et finalement, je pense que les lecteurs eux-mêmes, bah, c'est eux qui récupèrent le fruit de tout ce travail, quoi, de cet échange. Donc par exemple, notamment, on a eu parfois des photos absolument innommables ou alors même des schémas dessinés, je cite, sur une tablette, dans un bus qui bougeait tellement que, donc au doigt sur Paint, et le bus bougeait tellement que la personne avait mal au cœur et a dû s'arrêter. Donc t'imagines le dessin que ça fait. Bon, ben, j'ai eu ça, j'ai refait les diagrammes, et tu ne retrouveras pas les diagrammes qui. Enfin, au début, il n'y avait aucun diagramme, j'ai insisté pour qu'il en fasse, et finalement, j'ai reçu des trucs immondes faits au doigt sur une tablette dans un car de tourisme, et finalement. Après, avec un beau diagramme, ça fait un article embelli et tout ce processus-là, ben, il est caché pour les utilisateurs. Et je pense qu'à la fin, c'est plus sympa pour tout le monde.
D'accord, donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher des auteurs totalement obscurs qui n'iraient pas soumettre dans une conférence, par exemple, et vous extrayez leurs travaux pour les obliger à les publier quelque part. C'est ça la démarche ou
Ça dépend, il y a des gens qui postulent spontanément. Il y en a au contraire, effectivement, qui sont un peu intimidés vu les gens qui ont publié avant et on leur dit, bah, écoute, arrête de te poser des questions. Nous, on trouve que c'est bien, alors n'hésite pas à continuer. Et parfois, effectivement, ça nous est arrivé. Il y a notamment un des articles que j'aime beaucoup, c'est l'encyclopédie du cracking Apple II. Au début, les gens m'ont dit non, j'ai pas le temps de faire d'écrire cet article, pas question. Et il me dit demande à quelqu'un d'autre, et l'autre me dit la même chose. Et finalement, en montrant que j'étais vraiment intéressé, en me mettant à poser des questions, en proposant de faire des dessins, etc., les gens ont commencé à écrire une page, deux pages, etc. Et puis à la fin, ça fait une vingtaine de pages, et c'est la référence en la matière, quoi. Alors que l'article, à la base, les gens ne voulaient pas l'écrire parce qu'ils pensaient que personne n'allait intéresser. Et en montrant mon propre intérêt sur le sujet, les gens commencent à être motivés d'écrire, même si c'est peut-être à la base pour juste trois personnes.
Oui, parce que ce que tu n'as pas dit en te présentant, c'est que tu es aussi un très grand fan de rétro gaming et de bornes d'arcade et de tout un tas de systèmes obscurs.
Bah, c'est plutôt, je suis un gros ignorant de tout le reste. Donc j'aimerais bien connaître plus des trucs modernes, etc. Mais j'ai encore plein de choses à apprendre dans la direction du passé, donc je crois que c'est foutu pour cette vie-là.
Good. Il paraît que qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre. Je sais pas si
Voilà.
ça arrivera avec les bornes d'arcade des années 70, mais.
Oui, ben, effectivement, j'en apprends beaucoup sur les jeux des années. Un des articles précédents, là, c'était dans des numéros précédents, c'est un Allemand qui a entièrement reversé un jeu des années 70, un des meilleurs jeux de 1979, qui était une beauté technique, le meilleur jeu de la. Le meilleur jeu du hardware en question de l'époque et l'ancêtre de No Man's Sky, on pourrait dire. Et il a entièrement reversé le jeu, que ce soit les data, le code et tout, quoi. Enfin, c'est pas un gros jeu, mais c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui a entièrement redocumenté un jeu à l'ancienne, quoi.
Et il y a combien d'articles en fait par épisode, on va dire?
Ça dépend. En fait, on a des numéros qui vont carrément du simple au triple en taille. Et puis parfois, il y a un article monstrueux qui fait genre la moitié du numéro et parfois juste des articles d'une page, etc. Je dirais qu'il y a une dizaine d'articles en général, mais c'est vraiment pas imposé, ni même important pour nous. D'ailleurs, par exemple, normalement, on fait un numéro par trimestre, et là, le trimestre dernier, on n'a rien fait, quoi, parce que on n'avait pas assez d'articles, on avait aussi des choses à faire, on a Noël à préparer pour les... chacun de notre côté. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on ne s'impose pas de limites au niveau du contenu, donc on n'est pas à quémander des articles pourris, la qualité avant tout, le fun avant tout, et comme ça, on n'a pas de compromis à ce niveau-là, quoi, au niveau du contenu.
Et pourtant, tout à l'heure, tu parlais d'une deadline à ne pas dépasser.
Alors effectivement, une fois qu'on met la machine, une fois qu'on voit qu'on a suffisamment d'articles, là on a une deadline à une conférence avec un imprimeur, et ça nous permet aussi de dire aux gens, il faut vraiment que votre article soit fini ce jour-là, parce qu'on a une deadline d'imprimeur derrière. Comme ça, ils peuvent pas dire, ils pourraient dire, si c'est électronique, on peut retarder une semaine, mais là on a une deadline d'imprimeur, qui s'en fiche complètement du monde des hackers. Et effectivement, parfois c'est le contraire. On a quelqu'un qui a un article qui s'annonce fantastique, mais il n'a pas le temps, ou il est juste mis au courant 3 semaines avant que le numéro sorte. Et là, on lui dit, il n'y a pas de problème, il y a un numéro qui arrive le trimestre suivant. Parfois, on a eu des articles qui ont commencé à être écrits genre 5 mois à l'avance, sur un numéro avant. Mais comme la personne continue à faire un truc vraiment bien, on l'a reporté. D'ailleurs, on a des articles qui ont été reportés de façon permanente. Et ça, il ne faut pas le dire.
Non, parce qu'on est dans la bienveillance chez nos limites sécu. Mais par curiosité, vous tirez à combien d'exemplaires?
Bonne question, je crois qu'aucune idée.
Surtout. Le corollaire, c'est combien ça coûte en fait? Ça donnera une idée du volume.
Pour quand je dis TFO, c'est quand même l'utopie, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé, il n'y a pas de sponsor. Et il n'y a pas d'argent, etc. Je pense que c'est juste au moment de l'impression qu'effectivement, on fait appel aux gens des conférences à nous aider à ce niveau-là. Je me suis jamais posé la question de comment c'était, à quel prix c'était imprimé. Je crois que c'est parfois la conférence qui couvre une partie. Mais bon, c'est pas...
D'accord. Vous n'avez pas de Patreon, d'adresse Bitcoin, crowdfundé
ou... Non. Quand je dis TFO, c'est l'utopie totale, pas d'argent impliqué. Voilà quoi. Donc, au moins, pas de pression pour nous à ce niveau-là. Et effectivement, juste des contributions au niveau de l'impression, au niveau de l'aide à l'impression. Je crois que pour la Black Hat, le numéro de Black Hat avait quand même été imprimé à 1000 exemplaires.
Alors, justement, oui, quelles sont les conférences que vous utilisez en fait pour publier le magazine?
Ben en fait, on utilise plutôt les conférences qui tombent vers le milieu du dernier mois de chaque trimestre. Après, je suppose que ce sont aussi des conférences qui... Je pense que ce sont aussi des conférences où l'un de nous est présent et qui, je suppose, nous aident à couvrir des frais au niveau impression. Et alors, je suis pas sûr, je crois que c'est toujours bon quand même Black Hat DevCon, et sinon Troopers en Allemagne, mais je sais même pas si c'est fixé, sur quelle raison c'est fixé, ça c'est pas moi qui décide. Et encore une fois, la partie impression, où ça va être diffusé, je fais pas attention, et surtout aussi au moment où la version électronique est disponible, on l'envoie aussi à des hackerspace pour qu'eux fassent des impressions de leur côté, quoi. Et ça, on l'envoie à des hackerspace dans le monde entier, évidemment.
Oui, parce que, comme son nom l'indique, en fait, ce que tu n'as pas dit, c'est que c'est une publication entièrement en anglais. Et donc, je pense que vous diffusez essentiellement dans des conférences internationales dont l'anglais est la langue de travail.
Effectivement, ce n'est qu'en anglais. On s'est occupé de traduire certains articles en anglais. Et en plus, ce qui est pas mal pour les anglophones, pour les natifs, c'est que on fait aussi une sorte de moi, c'est pas moi qui m'en charge, je n'en suis pas capable, mais l'anglais est retravaillé de façon à ce que d'un article à l'autre, on n'ait pas l'impression qu'on change complètement de style. Mais effectivement, c'est limité aux conférences, enfin, c'est effectivement pour le public international, je dirais. Poker GTFO, c'est pas forcément mieux qu'autre chose, mais au moins on essaye à fond de faire quelque chose de différent, quoi. Donc quelque chose d'aider des gens qui sont très bons techniquement, par exemple, mais incapables d'expliquer en bon anglais ou de bien présenter leur travail, ou dégoter un projet un peu abandonné et de motiver la personne à le faire jusqu'au bout. Je pense que ça apporte ses fruits et une conférence traditionnelle ne permettrait pas de... Tout le monde n'aime pas présenter en public, tout le monde n'aime pas faire des slides, ou peut-être les bâclerait juste 5 minutes avant la conférence. Et je pense que c'est l'intérêt pour moi de Poker GTFO, c'est quand même d'essayer juste quelque chose de différent au niveau de communiquer de certaines informations.
Bon, le vrai problème des conférences, c'est les call for paper. C'est-à-dire que si tu veux aller à une conférence, souvent tu es obligé de passer par un processus de sélection assez formel et assez normé. Donc là, effectivement, ça peut rebuter des gens. Enfin, moi-même, je sais que dans certains cas, quand on demande 8 ou 10 pages en LaTeX juste pour avoir le privilège de soumettre à une conférence, c'est pas forcément évident, quoi.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, certains dans Poker GTFO font du LaTeX bien mieux que moi. C'est impressionnant. C'est bien, quoi. Comme on peut accepter en entrée juste quelque chose de griffonné sur un papier ou un simple fichier texte, même pas forcément en anglais, je pense que vraiment ça aide aux gens de les aider en chaperonnant leur article à publier quelque chose de mieux, quoi. Et peut-être effectivement après, la prochaine fois, ils essaieront par eux-mêmes de postuler. Mais finalement, le circuit académique est relativement fermé, le circuit traditionnel des présentations est souvent intimidant, donc ces deux modèles ont leurs limites, quoi.
Alors, si tu devais passer un message, est-ce que vous avez besoin de contributeurs, d'aide? Si oui, de quelle façon on peut vous aider?
Ben nous, on est toujours ouvert aux suggestions et aux contributions ou aux soumissions d'articles. Donc, même une bonne idée griffonnée sur une serviette, ça peut nous suffire. Après, les contributeurs, il n'y a personne qui se bouscule au portillon, donc on accepte les suggestions externes sans problème. Voilà, donc peut-être c'est surtout ça, c'est qu'en fait, comme on n'a pas de site, on ne sait pas combien on a de lecteurs, comme on est un peu dans le flou et juste on s'amuse entre nous, quoi.
Vous n'avez pas mis un tracker dans le PDF pour savoir combien de personnes ouvrent le fichier?
Je dis rien.
Tu dis rien, c'est-à-dire? Non, là, t'en as trop dit.
Non. Rien de tout ça. On essaye. Un détail important, c'est qu'aussi bien notre PDF, il est bien bizarre, mais aussi bien, on veut avant tout que les gens puissent le lire. Et la compatibilité, c'est très important pour nous, malgré tout. Ce qui fait que parfois, on a des bugs extrêmement tordus, inexplicables. Donc, par exemple, une fois, quand on faisait un polyglotte Flash et PDF, tout d'un coup, sur certains viewers PDF, la première image disparaissait. Il n'y a pas de raison. Le PDF s'ouvrait toujours, mais la première image disparaissait. Alors, on a mis une image de 1 pixel au tout début du fichier. Comme ça, c'était elle qui était sacrifiée. Mais notre...
il fallait un sacrifice, et donc...
Voilà.
Il fallait sacrifier la première image.
Voilà. Ça n'avait pas de sens. Le fichier, soit aurait dû être complètement accepté, soit être complètement rejeté, je dirais. Et là, c'était juste la première image. Il n'y avait pas d'explication. Mais effectivement, on a un QA assez poussé pour être sûr que dans tous nos délires, la compatibilité reste de mise, quoi. Donc, on fait quand même pas trop de bizarreries, notamment pas très très peu de JavaScript, parce que la compatibilité JavaScript sur les lecteurs PDF est très limitée.
Alors, et est-ce qu'en fonction du lecteur PDF, tu as un contenu différent?
Non, ça, on l'a pas fait. On aurait pu, c'est vrai. C'est pas forcément évident parce que surtout l'important pour nous, c'est que c'est pas du fait main. Il faut quand même que le processus de génération du polyglotte soit relativement automatisé, quels que soient les cas. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu tenter, mais qui n'est pas forcément facile. Surtout qu'on veut quand même que dès qu'on corrige une faute d'orthographe, tout se recompile, quoi. Passer par l'éditeur exa.
J'imagine que vous avez prévu à l'avance le type de polyglotte qui vont sortir pour les prochains numéros.
Oui et non. Effectivement, on a une liste, mais souvent, c'est au dernier moment qu'on a surtout une idée géniale ou qu'il y a peut-être un fait d'actualité qui est relativement intéressant. Par exemple, le dernier numéro, c'était un polyglotte PDF PostScript. Alors, on s'est bien amusé. Déjà, il y avait la même page de garde dans la version PostScript et la version polyglotte. Et l'article qui expliquait le PDF polyglotte PostScript, la première partie de l'article était dans la version PDF, la deuxième partie était dans la partie PostScript. Mais notamment, comme PostScript est un vrai langage de programmation, on a aussi ajouté d'abord un générateur de labyrinthe, parce que pourquoi pas. Donc chaque fois que tu ouvres le fichier PostScript, tu as un labyrinthe différent. Et aussi la vulnérabilité que Tavis Ormandy avait trouvée juste quelques semaines avant, qui dumpait ton Edge password dans la console via PostScript.
Oh, c'est pas une vulnérabilité, non, c'est juste un include à la con, quoi.
Je crois qu'il y avait quand même quelque chose à corriger, mais c'est pas mon problème. En tout cas, c'était d'actualité.
Et donc, en gros, il y a une liste qui est longue ou
Non, c'est loin d'être une liste infinie, déjà parce qu'il y a quand même beaucoup de cas qui ne vont pas marcher. Il y a Adobe qui blacklist beaucoup d'autres formats. Donc, par exemple, tu ne peux pas faire un binaire Windows et PDF, sinon le PDF ne s'ouvrira pas sur Adobe Reader. Donc ça, c'est notre liste noire. On est obligé de la contourner, de l'abuser, etc. Et elle se met à jour. Donc, non, c'est très limitant. La liste n'est pas infinie. Effectivement, sans cette liste noire, ce serait beaucoup plus facile.
Mais alors, et au fur et à mesure que les lecteurs vont s'améliorer, vos possibilités vont se restreindre. Puisque normalement, à la fin, ne pourra s'ouvrir qu'un fichier PDF normalement constitué, non ?
Ben déjà, je crois qu'effectivement, le numéro 4, on ne peut plus l'ouvrir sur Adobe Reader parce qu'on avait contourné leur filtre. Et après, ils l'ont mis à jour. Et donc, si tu prends une version récente d'Adobe Reader, le numéro 4 ne va plus s'ouvrir. C'est pour ça qu'on invite, avec l'outil, par exemple, UTools, on peut facilement transformer le PDF polyglotte en un PDF standard qui, lui, va être ouvrable par tous les viewers. Et de toute façon, ce que font maintenant beaucoup de nos lecteurs, ils le lisent directement sur archive.org. Comme ça, ils ont peu de risques de se faire exploiter.
Ah, tu veux dire que sinon, il y a un risque de se faire exploiter.
Bah, disons que c'est quand même pas des fichiers exactement standards et parfois il y a des résultats surprenants, quoi.
J'avoue que j'ai hésité à l'ouvrir sur ma machine. Je me suis dit, tiens, je vais l'ouvrir sur une machine virtuelle.
Je comprends ces inquiétudes. On les entend souvent. Et le gag, c'est quand moi, j'essaye d'imprimer une copie normalement avec mon imprimante et tout d'un coup, il y a une des pages qui... Pour une raison inconnue, l'imprimante se met à interpréter le texte et sort et le texte qui était le texte de l'article et se met à planter à cause de cela avec des messages d'erreur en fonction de ce qu'il y avait dans le texte. Donc moi non plus, je suis pas à l'abri.
Ouais, c'est pas totalement surprenant puisque les imprimantes prennent des commandes via le flux d'impression. Par exemple, si tu veux faire une update de firmware de ton imprimante, tu imprimes un fichier magique et avec la bonne séquence de caractères, ça va passer en mode reflash de l'imprimante. Après, je ne sais pas exactement ce qui se passe, hein, mais les imprimantes ne sont pas des êtres totalement passifs. Ouais.
Oh non, les imprimantes ne sont pas du tout juste passives. Et d'ailleurs, parfois, elles m'énervent suffisamment. Un jour, je vais le prendre personnellement. Mais effectivement, on y a pensé. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de modèles. Donc, on ne pourrait pas cibler de façon uniforme toutes les imprimantes d'une marque, a priori. Après, ça peut changer. Si les imprimantes continuent à m'énerver, peut-être un jour ça va changer. Mais tu vois, au moins on s'en rapproche, puisqu'on a réussi à faire le polyglotte PDF PostScript, qui est donc deux langages compréhensibles par une imprimante.
Et donc tu veux dire que, en fait, en imprimant ce fichier PDF, tu peux obtenir à l'impression quelque chose de complètement différent également ?
Oh ben, le PostScript, c'est un langage complet, donc ça fait même longtemps que les gens ont fait des fractales Mandelbrot sur l'imprimante, en PostScript.
Ah oui, d'accord. Donc le rendu visuel n'était pas celui qui était imprimable.
Voilà, tu peux vraiment y aller. Donc c'est clair que maintenant, j'ai fait plusieurs fois des fichiers qui étaient différents à l'impression et à la visualisation. Et effectivement, entre le logiciel de ton OS et l'interpréteur de l'imprimante, il n'y a aucun doute qu'on pourrait faire des fichiers qui se comportent totalement différemment. Et comme a dit Nicolas, pas juste imprimer quelque chose, mais au passage, flasher l'imprimante.
Bah, tu peux faire un fichier qui ne peut s'imprimer qu'une fois. Ça, c'est...
Oui, mais sur quelle imprimante? C'est ça le problème. Il y a plein de choses possibles, mais chaque fois, il faudrait choisir un modèle particulier. Et pour l'instant, je n'ai personne en vue. Donc, si tu as quelqu'un que tu connais son modèle d'imprimante, je peux m'acheter le même modèle à la maison. Et là, Oh, je dis plus rien. J'avais trop dit.
Ok, mais sinon, en parlant d'impression, il va y avoir une nouveauté aussi dont tu peux peut-être nous faire l'exclusivité.
Effectivement, donc avec nos starts, on va imprimer les 9 premiers numéros, donc du 0 au 8, sous forme d'un livre, au format Bible, a priori imprimé en papier Bible, donc très fin. Et donc ce sera disponible chez nos starts dans les mois à venir, et c'est fini. Donc on a passé pas mal de temps à améliorer le niveau des premiers numéros à nos standards actuels. Aussi que ça tienne sur un format plus petit, et ça fait quand même un pavé de, je crois, 700 pages.
Oui, c'est juste pour les 9 premiers épisodes, alors qu'aujourd'hui, vous en êtes au numéro combien ?
On en est au 13e, donc le 14e.
Donc il y aura probablement un deuxième.
On verra, là, pour l'instant, on n'est pas encore... Qui sortira, on n'a pas encore de date. Au niveau date, c'est quand même un peu l'anarchie. Mais ça devrait être d'ici la fin de ce trimestre.
Trooper, c'est le 20 mars 2017. Donc...
Parfois, je prends des diagrammes de documentation officielle, et parfois, eux-mêmes sont buggés au niveau PDF, etc., au niveau encodage. Je les corrige, ce qui fait qu'on fournit en guise d'illustration une documentation qui est encore meilleure que la documentation officielle. Quoi.
C'est-à-dire ?
Ben donc, on a un article sur... tel processeur, et il se trouve que la documentation officielle, ben, elle a un problème, et si tu fais copier-coller, ça va pas marcher, ou il y aura peut-être un problème d'encodage particulier, et donc ça respecte pas exactement les standards du PDF, et ça m'est arrivé plusieurs fois de corriger ça, comme ça notre illustration dans notre magazine est mieux que l'illustration officielle, ou parfois il y a même des erreurs, tout d'un coup tu vois une erreur, et tu te dis, bon ben on va la corriger, quoi. Mais n'hésitons pas à améliorer.
Bon, eh bien, Ange, merci beaucoup de ta participation à cet épisode.
De rien.
Donc, si nos auditeurs veulent te rencontrer, il me semble que tu organises un workshop prochainement.
Effectivement, après avoir bien bossé sur Poker GTFO, j'ai fait un workshop pour permettre à d'autres personnes d'illustrer leurs articles ou aider à leur ou les aider à créer de meilleures documentations. Donc, ça se passera sur Zurich le 11 février. Mais surtout, les slides seront faits pour être utilisables de façon autonome et seront disponibles publiquement.
C'est sur Inkscape, il me semble.
Oui, c'est sur Inkscape, oui. Que j'utilise beaucoup pour importer de documentations, les retravailler et les réexporter en PDF. Auquel cas, on peut les intégrer dans des articles en LaTeX, comme Poker GTFO.
Merci beaucoup, Ange.
Merci à vous.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.